Donc, je vais commencer par une blague pour introduire le voyeur. C'est Tristan Bernard qui disait « C'est quoi la différence entre un journal... » Non, c'est « Un journal coupé en morceaux n'intéresse aucune femme, mais une femme coupée en morceaux intéresse tous les journaux. » C'est un chiasme. En fait, ça part de... Ça introduit bien le voyeur parce que ça montre que tout le monde est un peu voyeur, hein? Si c'est pas par pur sadisme, au moins c'est pour accéder à la terreur, la pitié dont parlait Aristote au sujet de la tragédie. Puis c'est là-dessus que je vais terminer ma présentation. Donc, si tout va bien, je devrais avoir bouclé la boucle en 20 minutes. Ce dont je veux parler, c'est... Je vais analyser ce qui se passe dans la tête d'un lecteur en train de lire Le Voyeur de Rob Grillet. C'est précisément ça. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du voyeur pour que vous puissiez comprendre un peu les enjeux. Ensuite, je vais introduire la théorie de Raphaël Baroni sur la lecture diagnostique et la lecture pronostique, donc deux modalités d'interprétation différentes. C'est pour ça que ma présentation s'appelle Le Voyeur, l'autre modalité d'interprétation. Et finalement, je vais plonger dans la poétique d'Aristote pour comprendre un peu comment ces deux modalités-là interagissent selon le Stagirite. Donc, je vais commencer mon texte. Alors, avec Le Voyeur, paru en 1955, on se retrouve d'emblée dans les pensées du personnage principal, Mathias, qui se rend sur son île natale pour vendre des bracelets-montres. Dans la forme, le roman ressemble à Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. C'est un stream of consciousness en style indirect libre. Le récit commence alors que Mathias est sur le traversier en train d'accoster et qu'il se demande combien de montres il va pouvoir vendre dans sa journée. Il espère que d'avoir grandi sur l'île va lui permettre de conclure quelques ventes rapides. Arrivé sur l'île, Mathias loue une bicyclette pour faire la tournée des maisons et en parlant avec les insulaires au fil de ses visites, il apprend des rumeurs au sujet de la petite Jacqueline Leduc, une adolescente vicieuse dont sa mère dit qu'elle a le diable au corps et qui aurait fait échouer les fiançailles d'un des marins de l'île tout récemment. Donc, les histoires qui courent au sujet de la jeune fille fascinent Mathias, et la première partie des trois parties du roman s'achève au moment où Mathias à vélo est au croisement de deux routes, une allant vers l'endroit isolé où la petite Jacqueline fait paître des brebis, et un autre chemin se dirigeant vers un petit hameau où Mathias doit se rendre pour vendre ses bracelets-montres. Puis, la deuxième partie du roman commence 90 minutes après la fin de la première partie et tout le reste du récit consistera à remplir cette ellipse pendant laquelle, on l'apprend plus tard, la petite Jacqueline est disparue. Même si rien n'est dit, on a des indices depuis le commencement. Dans les premières pages du livre, Mathias trouve une corde par terre, puis observe une fille qu'il voit en arrivant dans l'île, et ses pensées vont de la corde à la fille, mais sans que le lien entre les deux ne soit énoncé. Puis Mathias sort de son portefeuille un article qu'il a découpé dans le journal, avec un fait divers qui raconte justement le meurtre d'une femme. Enfin, tous les morceaux du casse-tête sont présents, mais ils ne sont jamais réunis pour nous. Dans toute la deuxième partie, donc, Mathias se raconte à lui-même, pour pouvoir la raconter à quelqu'un qui le lui demanderait, la façon dont il a occupé les 90 minutes entre la dernière maison visitée en avant-midi et la rencontre avec une des habitantes de l'île à qui il vend une montre au tout début de la deuxième partie, donc peu après la disparition de la jeune fille. On assiste alors à la reprise dans l'esprit du personnage principal, des mêmes déplacements, des mêmes lieux, la maison des Leduc, la ferme des Marek, mais narré différemment chaque fois qu'un élément nouveau apparaît en contradiction avec la version précédemment échafaudée. Par exemple, Mathias apprend que le jeune Marek se trouvait chez lui sur l'heure du midi, donc c'est impossible qu'il s'y soit rendu sans y trouver personne, comme il l'aurait prétendu dans la première version de son alibi. Alors, il reprend un nouvel alibi et tout. La seule chose à quoi on assiste, c'est les différents alibis successifs qui se modifient légèrement à chaque fois. La seconde partie du roman s'achève alors que Mathias, qui voulait quitter l'île le soir même pour retourner sur le continent, rate de justesse le départ du traversier et se voit forcé de rester sur l'île deux jours de plus jusqu'au prochain bateau. La troisième partie tourne court parce que Mathias, qui est pris sur l'île, pendant qu'on découvre le corps de la jeune fille jeté à la mer, comprend que finalement, il n'y a personne qui le soupçonne et que les insulaires sont à tout le moins indifférents quant à la mort de la jeune fille qui leur avait causé beaucoup de soucis. Alors, Mathias reprend, calme ses inquiétudes, puis reprend tranquillement le traversier 2 jours plus tard pour regagner le continent. Devant une œuvre comme Le Voyeur, où le narrateur ne donne pas l'heure juste sur les personnages, sur leurs intentions ou sur leurs actions, le lecteur doit repenser les modalités d'interprétation du récit. En effet, si on analyse cette histoire en lui appliquant le fameux schéma actantiel de Grimace, on se retrouve avec un résultat bien maigre, parce que le lecteur n'a pas une idée claire de la fameuse quête de Mathias. En fait, c'est ce qui est intéressant, le lecteur s'efforce tout le long du texte de déterminer justement quelle serait cette quête. Parce que ce n'est jamais évident. Il y a des éléments qui produisent une ambiguïté. Par exemple, certains commentaires de Mathias permettraient de penser que toute cette histoire-là d'enfance sur l'île, c'est une pure fabulation, une technique de vente pour pouvoir créer des contacts avec les gens. Ou même, il y a d'autres... Il y a d'autres commentaires à la fin, le fait qu'il laisse passer dans la troisième partie plusieurs occasions de quitter l'île laisse penser que peut-être qu'il n'a même pas tué la fille puis qu'elle est seulement tombée. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Le lecteur n'est donc pas autant intéressé ici par la réussite ou non d'un programme narratif, mais par l'élaboration à partir d'indices de ce programme. Hypothétique. La théorie de Raphaël Baroni au sujet des différentes modalités d'interprétation explique parfaitement où se situe l'intérêt du lecteur pour le roman Le Voyeur. Baroni s'intéresse à ce que Paul Ricoeur appelle la mimésis 3, c'est-à-dire au travail du lecteur. Dans son article intitulé « Passion et narration », Baroni dégage 2 modalités fondamentales de l'interprétation d'un récit qu'il propose de baptiser par les termes suivants « pronostic » et diagnostic. Premièrement, la modalité d'interprétation de type pronostic, c'est celle qui consiste à se demander ce qui va arriver. C'est le sens du mot pronostic, savoir et par en avant. Baroni définit cette modalité d'interprétation de la manière suivante, je le cite, « Il s'agit de l'anticipation d'un développement actionnel dont on connaît seulement les prémices. » C'est-à-dire que le lecteur se questionne ou essaie de comprendre les conséquences des actions des personnages, le dénouement de l'action, la réussite ou l'échec de ce que le personnage essaie de faire. Baroni, dans un autre article, s'explique ainsi une question typique que pourrait se poser un lecteur, le lecteur d'un récit structuré par le pronostic serait, par exemple, quelle sera l'issue du conflit, qui va gagner, le héros va-t-il y arriver? C'est donc les questions auxquelles on est habitué de penser en narratologie classique, structuraliste, quand on étudie une œuvre. C'est le genre de question, donc, à quoi ça s'applique le schéma actantiel, notamment. Mais il y a une deuxième modalité d'interprétation que Baroni désigne par le terme « diagnostic » et qu'il définit comme suit « l'anticipation » à partir d'indices de la compréhension d'un événement décrit de manière incomplète. Le mot « diagnostic » utilise le suffixe « gnos », donc « savoir », et le préfixe « dia », qui veut dire « au travers », et qui n'implique pas exclusivement une recherche des causes qui seraient situées dans le passé, comme avec « rétrospection », mais ça intègre également l'identification d'éléments actuels, par exemple une identité, un lieu ou une intention, qui sont dissimulés. De plus, le diagnostic se définit littéralement comme la détermination d'un état d'après ses symptômes. La connaissance s'acquiert par l'observation de signes et permet d'atteindre une connaissance à travers eux. On peut donc, en utilisant cette définition-là, appuyer l'importance du signe et de son économie dans la construction du récit. Enfin, les questions que pourrait se poser le lecteur d'un récit structuré par le diagnostic seraient par exemple « Qui est l'assassin? Comment en est-on arrivé là? » ou encore « Qu'est-ce qui est en train de se passer? » Le diagnostic est définitivement la modalité d'interprétation principalement mise en branle par le roman « Le Voyeur ». Pourtant, il y a aussi une part d'interprétation pronostique qui entre en jeu. Par exemple, lorsque Mathias rate le bateau à la fin de la deuxième partie, On se demande ce qui va se passer, est-ce qu'il va attirer les soupçons, est-ce qu'on va le questionner. Donc, il y a quand même les deux modalités, pronostic et diagnostic, ne sont pas en opposition. Chaque nouveau élément amène des nouvelles hypothèses, en détruit d'autres, mais on est toujours dans une espèce de résonance entre pronostic et diagnostic. Je me suis alors questionné pour savoir comment marchait la relation entre pronostic et diagnostic, et c'est chez Aristote que j'ai trouvé des réponses. En effet, comme le montre Paul Ricoeur dans Temps et Récits, il y a déjà dans la poétique une théorie de la réception. Déjà chez Aristote, on voit se dessiner les deux modalités d'interprétation que Baroni appelle pronostic et diagnostic, que je vais associer aux péripéties et à la reconnaissance. D'abord, les péripéties, c'est le retournement du bonheur au malheur. C'est donc les conséquences inattendues des actions. C'est donc directement en lien avec une attente qui serait pronostique. On se demande ce qui va se passer. Ensuite, la modalité d'interprétation diagnostique, quant à elle, trouve écho dans la reconnaissance ou l'anagnorisis, c'est le mot grec. Anagnorisis, au sens propre, le mot désigne justement l'action de reconnaître, c'est-à-dire connaître en remontant. Entrez! Ah, bon, désolé. Donc, l'anagnorisis, c'est connaître en remontant. C'est le sens de la préposition grecque « ana ». Donc, c'est-à-dire remonter aux sources de l'erreur, à la situation antérieure à la méprise. Bon, je vais utiliser le mot reconnaissance pour simplifier les choses, mais il faut garder à l'esprit que reconnaissance, ça veut dire remonter aux sources d'une erreur. À sujet, Œdipe roi de Sophocle est fort intéressant. C'est pas pour rien que c'est la pièce la plus citée par Aristote, parce que c'est une pièce où la reconnaissance est tout à fait centrale. Contrairement au mythe qu'on apprend souvent dans l'ordre chronologique, ça commence par Jocaste qui se fait annoncer que l'enfant qu'elle porte va tuer son père, etc. Dans l'ordre chronologique, la pièce de Sophocle commence pas comme ça du tout. Ça commence avec les habitants de Thèbes qui vont cogner au palais puis qui disent « Faites de quoi contre la peste ?» Et puis, excusez, je me suis étouffé avec ma salive. Et puis, Œdipe qui dit « J'ai envoyé Créon ». Créon revient, puis là, il dit « Faut se débarrasser de l'assassin de Laïus ». Et puis, Œdipe commence une enquête sur un cold case, vraiment un vieux meurtre que personne ne se rappelle. Donc, on est vraiment en présence d'un texte théâtral qui met en scène la modalité d'interprétation diagnostique. Et c'est précisément cela la différence entre un narrateur fiable et un narrateur non fiable. C'est que chez Sophocle, comme dans la plupart des whodunit, c'est un personnage dans la diégèse qui nous fait vivre par procuration l'anagnorisis. Tandis qu'avec un narrateur non fiable, comme Rob Grillet, c'est le lecteur qui est aux prises avec le texte et qui fait tout le travail. C'est pourquoi Aristote place la reconnaissance à l'intérieur de l'histoire, mais qu'en fait, on voit qu'elle peut impliquer seulement le lecteur et être un pur produit du récit, sans nécessairement avoir lieu dans l'histoire. C'est bien la différence récit-histoire entre les deux. Alors, derrière chacune de ces modalités d'interprétation, pronostic et diagnostic, se trouve un intérêt de lecture qui lui est propre. Il est généralement admis que l'anticipation d'un développement actionnel, donc le pronostic, débouche sur un plaisir de lecture impliquant une dimension éthique. C'est la fameuse catharsis qui est induite par la terreur et la pitié. Donc, quand on s'indigne que les conséquences des actions fassent passer du bonheur au malheur des personnages qui ne méritent pas, pour éprouver ce genre d'indignation propre à la tragédie, ou au contraire, mais c'est dans le même ordre d'idées, pour être heureux que le vilain soit puni à la fin d'une histoire, comme chez Vladimir Prop, il faut s'intéresser aux conséquences des gestes et donc avoir une modalité d'interprétation qui est davantage pronostique. Donc, pronostic, catharsis, ça va ensemble. Toutefois, avec le voyeur, le plaisir se trouve manifestement ailleurs. L'intérêt d'une œuvre non fiable ne se situe pas dans la catharsis. L'éthique joue un rôle, comme on va voir, mais secondaire. Le vrai centre d'intérêt du diagnostic se trouve dans le plaisir d'apprendre dont parle Aristote au tout début de la poétique. Lorsqu'on peut dire que tel homme est un tel, ça c'est la formule d'Aristote, on éprouve du plaisir. Il dit « Le fait d'apprendre est tout ce qu'il y a de plus agréable, non seulement pour les philosophes, mais aussi pour tous les hommes, bien que ceux-ci n'y participent pas autant. » On comprend avec ces derniers mots pourquoi les textes qui demandent un grand travail diagnostique, comme les œuvres non fiables, sont souvent valorisés par les intellectuels, mais plaisent un peu moins au grand public. Enfin, dans la poétique, Aristote montre les interactions entre reconnaissance et catharsis. Le plaisir d'apprendre et le sentiment éthique entretiennent une relation bilatérale où l'anticipation éthique, donc le pronostic, stimule le désir d'apprendre, donc le diagnostic, et où la compréhension permet de déterminer la valeur éthique de l'événement. On le remarque avec le voyeur. Bien que l'effort diagnostique dépasse l'effort pronostique, il y a tout de même des personnages qui nous intéressent et des scènes auxquelles on n'accède qu'indirectement, mais qui piquent la curiosité. Les attentes pronostiques, en interpellant notre sentiment éthique, rendent nécessaire le diagnostic. Et c'est pour goûter à la catharsis, c'est pour savoir ce qui est arrivé à la petite Jacqueline, qu'on déchiffre frénétiquement les indices comme des hiéroglyphes que le récit distille au lecteur. À la lumière de ce qui précède, il est possible de proposer une réponse à la question « Qui est le voyeur du roman ?» En effet, le titre est la première énigme du livre, car le mot n'apparaît jamais dans le texte, à part sur la couverture. Certains suggèrent que le voyeur serait Mathias lui-même, ou d'autres les personnages qui auraient pu être témoins du supposé meurtre, mais il semble que c'est au lecteur lui-même que s'applique le titre. En effet, l'image jamais montrée de la jeune victime ligotée et l'aiguillon qui pique sa curiosité et le motive à essayer de reconstituer le puzzle. Lorsqu'il est question du plaisir d'apprendre, Aristote écrit que, je cite, « Les objets que nous ne verrions qu'avec peine, s'ils étaient réels, des bêtes hideuses, des cadavres, nous les voyons avec plaisir dans un tableau. » L'exemple n'est pas gratuit et permet de mettre peut-être le doigt sur certaines des motivations des lecteurs de Rob Grillet.